Bonsoir. Fin des consultations politiques depuis mercredi dernier à Kinshasa. À l'issue de leur rencontre avec l'informateur, plusieurs acteurs politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ont proposé un type de gouvernement. Pour les uns, un gouvernement des coalitions, pour les autres, un gouvernement d'union nationale. Clôture ce jeudi à Kinshasa du forum sur la gestion des ressources naturelles en Afrique subsaharienne. Rencontre organisée par les FMI et le gouvernement congolais. Tels sont les thèmes que vous propose Tribune de la Presse de ce soir. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Joachim Diana, il est éditeur du journal La Colombe. C'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana.
Bonsoir Guimette.
Innocent Kaboukala, il est coordonnateur de Global Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Innocent Kaboukala.
Bonsoir Guy.
Et Donna Moussema, il est directeur de la radio communautaire Iriba FM, émettant depuis Bukavu, Sud Kivu. Bonsoir Donna Moussema.
Oui, bonsoir Guy Maté.
Des acteurs politiques congolais proposent chacun un type de gouvernement à l'issue de leur rencontre avec l'informateur. Fin à Kinshasa du forum sur la gestion des ressources naturelles. Écoutons cette revue de presse que nous présente Alain Rung pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Commençons cette revue de presse par la fin des consultations politiques de l'informateur depuis mercredi dernier à Kinshasa. Pour l'observateur, la fin des consultations en vue d'identifier une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale est une étape très importante franchie dans la formation du tout prochain gouvernement. Dans le même registre, la prospérité revient sur les propos du leader du MSC lors de sa rencontre avec Mwando Simba. Batumona a affirmé que Kabila doit aller au-delà du gouvernement inclusif. C'est la voie de sortie de crise que propose le mouvement de solidarité pour le changement, MSC, dont le responsable affirme en sus que les partenaires du Congo sont d'accord et très favorables à ce dialogue, rapporte la consoeur. Forum des As titre à sa une, gouvernement la balle dans le camp de Kabila, et d'ajouter que pendant ce temps, de l'avis de certains observateurs, le dialogue politique proposé constitue un piège pour la majorité et des garanties pour l'opposition. Pour le palmarès, le profil du Premier ministre se précise. Le quotidien note que trois quarts des partis de la majorité parlementaire refusent de faire prévaloir la logique arithmétique dans le choix du futur Premier ministre. Le deuxième sujet de cette revue de presse porte sur la clôture ce jeudi à Kinshasa du Forum sur la gestion de ressources naturelles en Afrique subsaharienne, rencontre organisée par le FMI et le gouvernement congolais. La référence plus met l'accent sur le fait que la RDC entend tirer profit de cette conférence. Le potentiel tire la sonnette d'alarme, gestion de ressources naturelles en Afrique subsaharienne, l'agenda caché de Kinshasa. Et le confrère d'enchaîner que le peuple congolais doit donc se réveiller et ouvrir les yeux pour faire échec à ce plan macabre de balkanisation. Pour terminer, retenez que parmi les autres sujets d'actualité de la semaine, on peut citer entre autres la publication à Genève du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violations des droits de l'homme observées en RDC pendant la période électorale, la célébration le 20 mars de la Journée internationale de la francophonie et l'affaire Bemba à la CPI où le procureur a achevé la présentation de ses preuves.
Merci Alain Irung. Un petit commentaire Joachim Diana, vous êtes éditeur du journal La Colombe, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité c'est aussi ces rapports du Bureau conjoint des Nations Unies, rapports faisant état des violations des droits humains à Kinshasa lors des récentes élections.
Oui, tout à fait. La presse a été plus ou moins exhaustive. Tout ce qu'il y a eu comme problème d'actualité pendant la semaine ont été traités par la presse, et notamment ce rapport tant controversé et un peu complaisant pour beaucoup, parce que j'estime que pour un pays comme la RDC, lorsqu'on parle des élections, se limiter à Kinshasa et seulement à quelques faits essentiellement attribués aux forces de sécurité. Bon, c'est pourquoi chez nous, à la Colombe, nous avons parlé de ça dans rapport thèse dont l'objectif est totalement de discréditer et le pays et les services de sécurité.
Il a dit que c'est un premier rapport et qu'il y aura un deuxième et beaucoup plus complet.
Et tout à fait. Le rapport, le tout premier, a beaucoup d'erreurs. on peut appeler ça des erreurs matérielles. Nous l'avons disséqué, je crois, lundi, nous allons publier ça. Il y a parfois même ses propres calculs. Hein, ceux qui ont fait le rapport se trompent même dans leurs propres calculs pour des problèmes très sérieux. On a vu les gens qui sont morts, il n'y a ni adresse, ni nom. Et on dit tout simplement qu'il y a eu 18 morts. Toutefois, c'est vraiment, ce sont des problèmes très sérieux pour ce rapport, il faut qu'on en parle.
Innocent Kaboukala, coordonnateur des Global Télévisions, une télévision qui émet depuis Kinshasa. L'autre actualité, c'est l'adoption vendredi dernier du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et parmi les innovations, on note notamment la participation de l'opposition au bureau définitif de la Chambre basse du Parlement.
Ces innovations, moi, ça me donnait quand même quelques frissons et aussi envie de rire, hein, par moments, parce que pourquoi s'attarder sur l'opposition? Pourquoi il faut que l'opposition se retrouve au bureau?
Parce que l'opposition n'était pas présente au sein du bureau.
Bon, qu'est-ce que cela change-t-il? Je ne vois pas. Moi, je crois que le bureau reste le bureau. Bon, quand on est dans une chambre, et la chambre a une mission bien déterminée, donc ce n'est pas un problème de poste qui devait préoccuper tant des gens là-bas.
Et un mot sur le rapport du bureau conjoint des Nations Unies qui fait état des violations des droits humains à Kinshasa pendant les élections.
Mais n'est pas nier ce fait-là. Moi, je ne sais pas s'il faut. Pourquoi? Parce que il faut être réaliste. C'est vrai. C'est vrai, dans notre pays, jusqu'à preuve du contraire, les violations sont légion. Les violations, il y en a. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on parlerait d'un rapport complaisant. Moi, je crois que le rapport est fait quand même par des gens assez outillés. On peut leur faire confiance. C'est vrai qu'il peut y avoir certains défauts des jugements à quelques niveaux, mais cela ne peut pas jeter un discrédit sur l'ensemble du rapport.
Donna Moussema, directeur de la radio communautaire Iriba FM, émettant depuis Bukavu, Sud Kivu, quelle est l'actualité qui domine à Bukavu?
Merci. L'actualité qui domine à Bukavu, c'est notamment le retour voulu en province du gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tshijambo. Vous allez vous souvenir qu'il a été rescapé du crash de 12 février dernier à Bukavu. Alors, avec son absence, il y a beaucoup de dossiers qui sont au frigo à cause justement de cette absence, étant donné même que aussi le vice-gouverneur Jean-Claude Kibala lui-même commence à siéger à l'Assemblée nationale. Alors, l'opinion ici à Bukavu, vraiment, voudrait déjà voir le gouverneur rentrer au Sud Kivu, surtout qu'on a appris qu'il allait déjà mieux, il est rentré de l'Afrique du Sud, maintenant il est à Kinshasa. Alors on voudrait le voir ici, c'est vraiment l'opinion ici à Bukavu.
Merci. Notre premier thème de ce soir, fin des consultations politiques depuis mercredi dernier à Kinshasa. À l'issue de leur rencontre avec l'informateur, plusieurs acteurs politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ont proposé un type de gouvernement pour les uns, un gouvernement de coalition, pour les autres un gouvernement d'union nationale. Plusieurs délégations des partis de l'opposition ainsi que du pouvoir ont été reçues par l'informateur Charles Mwandon Simba. Lundi dernier, le MLC était conduit par son secrétaire général Thomas Luaka, l'UNC conduite par son président Vital Kamerhe, le RCD-KML piloté par son président Boussa Nyamwesi et l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement ATD en sigle conduite par son président José Makila. Mardi, c'était le tour de l'UFC conduite par son président Léon Kengo Adondo et la CDC conduite par Gilbert Kyakwama. La semaine dernière, c'était les partis de la majorité présidentielle qui étaient reçus. On a vu tour à tour le PPRD conduit par son secrétaire général Évariste Boshab, la FDC conduite par son président Modeste Batilukwebo, l'ARC par Olivier Kamitatu et ainsi de suite. Si pour les MLC et l'UNC leur position converge vers un dialogue entre l'opposition et le pouvoir pour décrisper le climat politique actuel, par contre les RCD-KML et l'ATD se disent prêts à apporter leur pierre à l'édifice national. Vital Kamerhe explique au micro de Jacques-Yves Molima sur quoi devrait déboucher les dialogues qu'il soutient.
Ça doit aboutir à des institutions avec une légitimité renforcée, retrouvée, la cohésion nationale rétablie, mais aussi avec une fiche de bonne gouvernance de notre pays et de respect des droits humains, avec un calendrier bien défini pour le reste du processus électoral.
En d'autres termes, un gouvernement de large union?
Non, je n'aime pas ce genre de termes. Moi, je voudrais rester dans la Constitution. Quand le président actionne l'article 78, alinéa B, il entre lui-même en plein gouvernement de coalition. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ouvrez la Constitution, c'est écrit. Quand la majorité n'est pas clairement définie, au sein de l'Assemblée nationale, le président nomme un informateur pour une nouvelle majorité en vue d'une coalition.
De son côté, le président national de l'UNAFEC, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, souhaite que le futur formateur tienne compte de toutes les tendances politiques pour la mise en place du gouvernement. Déclaration faite à la presse lundi dernier à Lubumbashi, après son entrevue avec l'informateur Charles Mwando Simba. Gabriel Kyungu Akumwaza parle au micro des colonnes du Mamoussampo, du type de gouvernement qui convient à la RDC.
J'ai dit tout de suite, un gouvernement d'ouverture, contrairement à ceux qui parlent de large union nationale. Large union nationale, c'est la sélection que le peuple vient de faire au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous voulons tout simplement que le peuple se retrouve dans l'équipe qui sera mise en place. J'ai insisté, un gouvernement qui va se baser sur deux termes. L'expertise et l'expérience. Et un chef du gouvernement qui, pour nous d'avance, quand on les voit, il y aura moins de conflits qu'avant. Le peuple en a marre de conflits.
Joachim Diana, les consultations ont pris fin et apparemment elles ont suscité de l'intérêt. On a vu défiler différentes délégations. Quelle analyse vous faites d'abord par rapport à cet engouement?
Oui, généralement cela, les Congolais connaissent très mal, surtout les politiciens, qui devraient être les premiers à maîtriser toutes les lois qui constituent la base de leur action. Bon. Il a été donné à l'informateur une mission bien claire, c'est celle d'identifier une coalition. Mais il n'a pas été demandé à l'informateur d'ouvrir un dialogue intercongolais. Et lorsque vous y allez, vous devez avoir des députés à l'Assemblée nationale, parce que c'est une coalition entre les partis qui ont des députés. Mais on a vu les gens, même ceux qui n'ont pas de députés, qui sont allés se faire consulter, qui cherchent à avoir leur place au gouvernement, donc dans l'idée d'un gouvernement de tout le monde. Je viens de l'écouter le président de l'UNC, et il voit Karma dans cette même logique.
Lors de son premier point de presse, l'informateur M. Richard Mwando Simba avait dit qu'il va consulter l'opposition pour avoir son avis sur comment doit fonctionner le futur gouvernement.
Oui, tout à fait. Lorsque, par exemple, le chef de l'État, dans son discours d'investiture, avait dit qu'il allait travailler avec tous les Congolais qui ont la passion pour le Congo. C'était déjà l'ouverture. Alors, ça serait contradictoire de sa part qu'il ne donne pas à l'informateur, notamment la mission de consulter tout le monde, ceux qui peuvent y entrer.
Donc mais, c'est normal que tout le monde vienne aussi répondre à l'invitation.
Non, tout le monde.
L'informateur.
Tout le monde est invité par l'informateur. Mais on en a vu d'autres qui n'ont même pas été invités, qui estiment qu'ils devraient être là.
Vous êtes certain?
Je suis certain parce que nous étions au Grand Hôtel, on a vu tout le monde. Et normalement, en ce qui concerne la notion de coalition telle que vient de le définir le leader du UNC, c'est étonnant. La coalition, ça ne veut pas dire tout le monde. Il peut bien créer la coalition entre différents partis qui sont de la majorité. Il peut prendre tous ceux qui ont été dans l'ancienne majorité et créer une coalition. D'autant plus qu'il n'y a aucun parti politique qui a eu la majorité, ni le PPRD, ni le PALU, ni le PPPD, ni quoi. Mais entre tous ces partis-là qui ont la même vision, qui se sont battus pour l'élection de Joseph Kabila, ils peuvent créer un gouvernement de coalition. Ça sera la coalition.
Et Kamer a dit le contraire?
Kamer a dit le contraire pour dire que le président se trouve déjà en plein dans le gouvernement de tout le monde, de l'opposition et tout ce qui est déjà un gouvernement Il refuse bien sûr les termes de gouvernement de large union nationale, mais en fait un gouvernement d'union nationale, parce que il estime que l'alinéa 2 est une obligation à cela. Non, ce n'est pas ça.
Mais l'article 78.
C'est ça l'article 78. Dans son alinéa 1er, l'article dit que le président de la République nomme le premier ministre dans la majorité après consultation de celui-ci. Mais le deuxième alinéa, c'est celui qui dit dans le cas où il n'y a pas une majorité définie, il nomme une personnalité qui va identifier une coalition. Et la coalition ne veut pas nécessairement dire ceux qui sont de la majorité et l'opposition. Donc, c'est une ouverture, d'accord, telle que si on a invité l'opposition, ce n'est pas parce que la Constitution le dit, mais c'est parce que le chef de l'État l'a promis dans son discours d'investiture. Mais sinon, en ce qui concerne la Constitution, on peut faire la coalition avec d'autres partis que le parti de l'opposition.
Innocent Kabukala, beaucoup d'opposants ont non seulement répondu à l'invitation de l'informateur, mais se sont aussi amenés avec des propositions, ce qui est tout à fait normal parce que ils ont été consultés pour notamment donner leur avis sur le futur gouvernement. Les uns parle des dialogues comme préalable à toute formation du gouvernement. Les autres, par contre, vont droit au but en proposant un type de gouvernement. Et comment vous analysez toutes ces propositions?
Si vous permettez juste un petit élément par rapport à la première question. Lorsque mon confrère parle d'une coalition qui ne signifie pas nécessairement avoir l'opposition et la majorité dans ce gouvernement-là. Mais moi, je dis que c'est justement cela. Parce que dans une chambre, à l'Assemblée nationale, nous avons deux tendances. Nous avons et ce qu'on qualifie de majorité à partir du moment qu'elle a été identifiée comme telle, et l'opposition. Et donc, lorsque on parle de la coalition, nécessairement, c'est aller vers les autres courants qui n'ont rien à voir avec la majorité. Moi, je crois que sur ce point de vue-là, on devait comprendre de cette manière-là. Alors, pour revenir à votre question, principalement, mais est-ce que...
Comment vous analysez toutes ces propositions? Les uns parlent des dialogues comme préalable à la formation du gouvernement, et les autres vont droit au but en proposant un type de gouvernement.
Moi, je crois que ceux qui ont proposé le type de gouvernement sont sur la bonne voie. Dans la mesure où la mission de l'informateur, principalement, c'est d'abord d'identifier cette majorité parlementaire à laquelle on fait allusion, et puis recueillir les avis sur ce que peut être ce gouvernement-là. Et donc là, on est d'accord. Je crois que ceux qui ont abondé dans ce sens-là ont pratiquement raison. Mais ceux qui pensent qu'il faudrait, et que le fait que l'informateur soit là est une occasion pour parler d'un dialogue, moi je crois qu'ils sont complètement à côté. Et vous verrez que pour la plupart de ceux qui ont fait ce genre de propositions, en fait, ils se cachent derrière quelque chose. C'est que, au lieu d'exprimer clairement qu'ils ont envie aussi de participer, de prendre part comme tel, des individus dans ce gouvernement futur, mais ils se cachent derrière ces mots-là. Il faut être clair.
Mais c'est un avis qu'ils ont donné.
Généralement.
Et vous verrez par rapport à la formation du futur gouvernement.
Ces propos sont venus de ceux que l'on qualifie d'opposants. Pour la plupart des cas.
Ils sont opposants officiellement.
Oui, en fait, l'opposition, dans une certaine mesure.
C'est vrai que l'opposition est plurielle au Congo.
L'opposition plurielle, c'est l'opposition parlementaire. En fait, qui ne partage pas l'avis de l'opposition qui est restée en dehors. Vous voyez? C'est justement ceux-là qui pensent de cette manière-là, mais on sait que dans le fond, ils veulent prendre part à ce gouvernement-là. Donc ça n'a rien à voir.
Est-ce un péché?
Bon, c'est une conviction, mais il ne faudrait pas vraiment se tromper d'adresse. Il ne faudrait pas se tromper d'adresse. Je ne crois pas que c'est une occasion pour qu'on ouvre un dialogue. S'il faut parler du dialogue, c'est à partir du moment qu'on reconnaît une crise, et la crise est extra ce parlement-là. C'est au niveau des élections qui ont eu lieu le 28 novembre de l'année dernière. C'est à ce niveau-là qu'on pourrait, parce qu'à ce moment-là, on a parlé d'une certaine crise qui existe au pays, et donc il faut ouvrir un dialogue qui permettrait aux acteurs politiques qui ont pris part à ces scrutins-là de se mettre d'accord autour d'un certain nombre de points pour pouvoir voir les choses de la même manière. À ce moment-là, on peut parler d'un dialogue, mais non pas dans le cadre d'une mission confiée à un informateur, et on propose un dialogue. Pourquoi en faire?
Donald Moussema, déjà on a entendu certains opposants exprimer leur souhait d'adhérer à la future majorité parlementaire et donc de participer au prochain gouvernement.
Oui, nous avons entendu tout le monde. Je pense que par rapport à la mission de l'informateur, tout est bien parti, d'autant plus que tout le monde presque a été consulté, ce qui est déjà une bonne chose. Je sens que ceux qui ont été consultés en majorité, j'ai l'impression qu'ils sont vite partis en besogne. Je me pose la question si vraiment la question de la formation du gouvernement est à l'ordre du jour aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas encore une fois, comme nous le disons toujours, la précipitation vers des postes? Parce que j'ai l'impression aussi qu'on a un peu vite la gonflé, le rôle de l'informateur. On a même tendance à confondre le rôle de l'informateur à celui du formateur. Je pensais que le formateur était là pour recueillir les informations, rencontrer tout le monde, consulter tout le monde et faire rapport au chef de l'État. Et après cette étape-là, on doit en principe nommer un premier ministre qui doit former le gouvernement. Mais à entendre tout le monde, c'est comme si on est un peu vite la partie en besogne et il y a précipitation à mon point de vue.
Donald. Ouais. Mais lorsque l'informateur, en définissant ses missions, il dit que il va consulter l'opposition pour que celle-ci donne son avis par rapport au prochain gouvernement, pourquoi vous semblez donner tort à ces opposants qui sont venus donner leur avis? Parce que c'était déjà dans les missions de l'informateur.
Bon, je leur donne pas vraiment du tout tort, mais je sens quand même que quelque part, Il y a eu un peu de précipitation. On voit déjà les postes en vue. Je pensais qu'on devait s'arrêter au niveau des consultations. Et par rapport à la question que vous avez posée sur les gouvernements, soit de coalition, large union, est-ce qu'il faut qu'il y ait dialogue? Je pense que ça serait logique sur le plan politique qu'on réfléchisse en termes de coalition, parce que quand il y a une majorité qui a gagné les élections, c'est elle qui forme le gouvernement et les autres sont dans l'opposition. Ils attendent aussi les élections prochaines pour aussi avoir le pouvoir. Ça serait plus logique sur le plan politique. Mais au vu du contexte politique congolais, bon, on peut toujours changer peut-être la forme. S'il y a dialogue, bon, je ne sais pas, ça pêche contre les bases de la démocratie. Mais comme le dialogue n'a pas de prix, la paix n'a pas de prix, je pense que si on dialoguait aussi, ça ne serait pas du tout mauvais, parce que quand on dialogue, on trouve toujours des issues favorables.
Joachim Diana, Gabriel Kyungu-Akumanza, qui est député de la majorité présidentielle, et président de l'UNAFEC, lui propose un gouvernement d'ouverture.
Oui, avant d'en arriver là, j'aimerais donner une précision ici pour dire que il n'y a pas un camp. Si on va jusque dans la logique constitutionnelle, on estime que il y a d'un côté un camp et de l'autre l'opposition, mais ce camp-là, il a déjà 335 députés, ce qui devrait former le gouvernement. Mais on estime que puisque ces gens-là n'ont pas concouru ensemble pour aller aux élections, ils sont des partis disparates. Alors, on peut former la coalition entre ces partis disparates-là. Nulle part on dit que la coalition, c'est nécessairement avec l'opposition. Nulle part. Nulle part. L'opposition, c'est dans le cadre du discours du chef de l'État, discours d'ouverture. Et c'est ce que dit le président de l'UNAFEC,
Kyungu Akumanza.
Tout à fait. Gouvernement d'ouverture, mais pas gouvernement d'union nationale. Ça veut dire quoi? Gouvernement d'ouverture, on peut prendre deux, trois. Ma proposition, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà des trois ministres de l'opposition dans le Sénat.
Mais vous pensez que un gouvernement d'union nationale n'est pas propice dans les contextes actuels?
Mais il est inconstitutionnel. Il sera inconstitutionnel dans la mesure où aussi il sera un pas en arrière.
Ah, donc il faut au préalable un cadre juridique.
Mais le cadre, c'est la Constitution qui prévoit qu'il y a l'opposition et la majorité d'un côté. Si aujourd'hui on dit gouvernement d'union nationale, c'est qu'on doit réviser la Constitution pour écarter l'opposition de son existence. Pendant la transition, on a fait le 1 plus 4, un gouvernement d'union nationale de très large. Mais c'est parce que la Constitution s'y prêtait. Pour le moment, vous allez dire, c'est-à-dire on va éliminer l'opposition, ou bien on va dire l'opposition marginale, celle qui va refuser d'entrer dans, va rester dans l'opposition. Je voulais dire ceci, Guigui, ce n'est pas la première fois. Les gens croient que c'est la première fois qu'on a un informateur. Mwando Simba est le deuxième informateur qui termine sa mission. Le premier, c'était Kasavubu, qui avait échoué. Parce que on lui avait donné de former une coalition dans une majorité qui était pro-lumumbiste, les nationalistes. Il a échoué. Alors, ce qu'on a donné à Lumumba, qui avait déjà beaucoup de députés, comme c'est le cas avec Lampe et les autres aujourd'hui, il est parti, il a réussi sa mission. Donc, Mwando Simba est le troisième informateur. Donc, et on a eu le gouvernement juste d'ouverture. C'est ainsi que les Bomboko, les Delvaux. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est la leçon que je tire. Lorsqu'il a été question de limoger illégalement Lumumba, parce qu'il fallait que deux ministres contresignent l'acte du président de la République, qui ont signé, ce sont ceux qui sont entrés dans le gouvernement par la porte d'ouverture.
Mais c'était un acte illégal.
Mais c'était, l'acte était illégal, mais constitutionnellement, puisque l'acte du président de la République était contresigné par deux ministres, c'est devenu légal. Or, aucun ministre de la vraie majorité ne pouvait... Mais ceux qui sont entrés par l'ouverture, ils ont fait ça.
Il nous semble qu'à là, des prime abord, on a l'impression que c'est tout le monde qui voudrait faire partie du prochain gouvernement. Et à votre avis, comment faut-il gérer les ambitions des uns et des autres?
Bon, je vois que c'est légitime, hein, ces ambitions-là pour faire partie de ce gouvernement-là, à partir du moment qu'on s'écarte de certaines considérations. Ici, nous avons fait allusion, effectivement, à l'opposition parlementaire. Et notre ami qui est à Bukavu a bien fait de rappeler. Le jeu démocratique voudrait, ça c'est sur le bas de la Constitution, qu'une majorité qui gagne, c'est celle-là qui gouverne, tout simplement. Donc on n'aurait pas parlé en termes d'opposants qui viendraient à ce gouvernement-là. Et lorsque le chef de l'État propose une ouverture, c'est qu'il y a un problème à un niveau donné. Je crois que peut-être on aura le temps d'y revenir, mais le temps peut-être de répondre à ce qui est plus essentiel par rapport à la question que vous avez posée. Donc, je crois que c'est légitime. qu'il s'exprime, qu'il dise.
Que chacun ambitionne de faire partie du gouvernement.
Partie du gouvernement. Mais alors, le miracle à faire, c'est soit s'allier, donc devenir membre de la majorité, si on appartient à l'opposition parlementaire, comme on a eu d'ailleurs l'ambition de certains, et même bien des gens qui s'en cachent, et non pas faire comme ces opposants que nous avons vus, identifiés comme tels membres de l'UDPS, coupés de leur base, et on arrive à un niveau donné, on dit que voilà, on ne va plus voir l'informateur, mais non.
Et nous sommes comme quoi là, l'UDPS ainsi que certains partis alliés n'ont pas répondu à l'invitation de l'informateur. Il y a une certaine opinion qui pense qu'il aurait été sage et que l'informateur puisse se déplacer jusqu'à Limité pour y rencontrer M. Étienne Tshisekedi et que cela pourrait être le début du dégel.
Non, ne mettez pas l'informateur, ne le mettez pas dans cette affaire-là. Il n'a rien à voir, on lui a donné une mission claire qui a été définie. Il n'avait pas besoin d'aller à Limité.
N'a-t-il pas besoin d'avoir l'avis d'Étienne Tshisekedi par rapport à la formation du prochain gouvernement?
Étienne Tshisekedi ne reconnaît pas les institutions actuelles. Lui-même estime qu'il est président de la République. Vous comprenez? Alors, à partir de quel moment on peut le consulter? C'est pour ça qu'on a parlé de la crise que beaucoup rejettent, mais beaucoup d'autres aussi acceptent. Et à ce moment-là, c'est le terme dialogue qui était utilisé tout à l'heure là, c'est à ce niveau-là qu'il allait intervenir. Et à partir de cet instant-là, on ne peut plus parler d'une démarche quelconque de l'informateur vers M. Étienne Tshisekedi, qui ne reconnaît pas, qui n'est pas dans cette même logique. Comprenez? Donc il n'y a aucune sagesse à demander à Mohamed Ossima. Il est resté dans le cadre de la mission telle qu'elle a été définie au niveau de l'Assemblée nationale que Tshisekedi ne reconnaît pas.
Dona Moussema, votre avis par rapport à cette opinion qui pense que l'informateur devrait se rendre à Limité pour rencontrer M. Étienne Tshisekedi?
Bon, ça aurait dû être mieux qu'il le fasse même. Comme disait le confrère qui parlait, ce n'est pas le souci de l'informateur. Parce que depuis le début, je l'avais dit même l'autre fois dans l'émission que bon, pour l'UDPS, en tout cas tout est illégitime. Donc l'UDPS est allé jusqu'au bout de sa logique, ne reconnaît rien, donc tout a été biaisé, il y a eu des fraudes, il y a eu des irrégularités. C'est une sécurité qui est le président. Donc je pense que ça ne servait à rien du tout d'aller le consulter à Limité. C'est un point de vue.
Joachim Viana, par rapport à cette opinion?
Oui, mais l'UDPS est libre. Il n'est pas dit que quiconque est invité par l'informateur était obligé d'y aller. Ça, c'est un. De deux, quiconque a été consulté par l'informateur ne veut pas dire qu'automatiquement il a obtenu son ticket pour entrer au gouvernement. Non, ce qui n'est pas vrai. Les gens doivent se mettre cela en tête. Si quelqu'un est allé, non, je voudrais que le gouvernement soit par des hommes compétents, tout ça. Sur son avis, là, c'est important parce que le gouvernement de la République. S'il veut que je voudrais que tel soit le portrait robot du chef du gouvernement, c'est son droit aussi. C'est un Congolais. On a besoin de prendre en compte son point de vue là. Mais l'UDPS, qui est dans une logique hors la loi, on ne peut pas se mettre dans sa logique. Mais on s'est mis dans la logique de la loi en l'invitant. Mais il a refusé de venir, c'est son droit. C'est son droit. Donc on ne doit pas faire un problème.
On ne peut pas se rendre à Limité pour un
non, mais pour chercher quoi? Pour chercher quoi à Limité? Pour chercher quoi à Limité?
C'est quand même un leader important.
Mais c'est un leader comme tous les autres leaders. S'il refuse de se déplacer, mais vous savez, c'est parce que on a essayé de penser que dans la classe politique, il y avait des super leaders, et que c'est pour ça que ces super leaders estiment qu'il peut perdre les élections et le dire qu'il a gagné, et ça devient une crise. Il voudrait créer une crise à tout moment qu'il veut, il la crée. Donc, je vous dis que Tshisekedi et l'UDPS sont libres de venir auprès de l'informateur ou pas, ou de continuer dans cette logique-là. Les Congos marchent, les Congos ne s'arrêtent pas, les institutions marchent.
Il y a deux éléments importants qu'il faut distinguer là-dedans. Il y a une démarche politique et une démarche tout à fait légale. Vous comprenez? Si on doit consulter Tshisekedi, même si mon confrère estime que Tshisekedi c'est un leader comme tout le monde, mais une opinion, en tout cas, une grande opinion, même au niveau mondial, considère Tshisekedi comme un leader très important dans notre pays et même au niveau national. Donc ça, personne ne peut le nier. Alors, une démarche politique est possible, effectivement, pour recueillir son avis. Et cela n'a pas été fait. Mais le cadre dans lequel on se situe ne pouvait pas permettre qu'on puisse aller vers Tshisekedi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce qu'il appelle hors-loi. Hors-loi, c'est-à-dire la loi qui gère ceux qui se reconnaissent dans les institutions actuellement. Donc, ils sont quelque peu limités. Mais lorsque nous maintenons la démarche politique Tshisekedi jouerait son rôle toujours des leaders qu'on ne peut pas le contester aujourd'hui. Alors juste un petit élément, lorsque mon convoi parlait de, on peut inviter quelques deux opposants, trois opposants dans le gouvernement par rapport à l'idée de l'ouverture. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris en disant cela. Est-ce que cela ne signifie-t-il pas que c'était un gouvernement qui tendait vers cette union nationale? Est-ce que c'est parce qu'ils sont deux qu'on ne parle pas d'union nationale? Parce que c'est un problème de point de vue, d'idéal, c'est un problème de... Parce que ces gens-là viendraient-ils à quel terme s'ils ne sont pas opposants?
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Clôture, c'est jeudi à Kinshasa, du forum sur la gestion des ressources naturelles en Afrique subsaharienne. Rencontre organisée par le FMI et le gouvernement congolais. Il n'y a pas de meilleur modèle de gestion des ressources naturelles que celui basé sur l'équité et la transparence. Voilà ce que peut retenir la RDC du forum des hauts niveaux portant sur la gestion des ressources naturelles en Afrique subsaharienne. Ce forum des deux jours était organisé à Kinshasa par les Fonds monétaires internationaux et le gouvernement congolais. On écoute le ministre des Finances qui a pris part aux assises, Matata Mponyo, et au micro d'Agathe Mpona Elema.
Il y a une nécessité d'une transparence. La transparence apporte toujours l'efficience dans la gestion, que ce soit au niveau des multinationales, tout comme au niveau des nations. Ça, c'est très important. Deuxièmement, qu'il n'y a pas de fatalité. Quand vous avez des ressources naturelles, de quelque abondance que ce soit, il n'y a pas une relation entre des ressources naturelles et une certaine malédiction. Donc, il faut un bon leadership, il faut des bonnes politiques macroéconomiques, et il faut une bonne répartition des ressources provenant de secteurs et que la croissance soit inclusive.
Innocent Kaboukala, vous êtes coordonnateur des Global Télévisions, c'est une télévision qui est émise depuis Kinshasa. Transparence, c'est le leitmotiv lorsque l'on parle de la gestion des ressources naturelles. Il y a l'ITIE avec son principe publier ce que vous payez, récemment la certification régionale, et ajouter à cela la série de mesures prises par les gouvernements pour assurer la transparence, mais on se rend compte que cette transparence n'est toujours pas démise. Comment peut-on expliquer cela?
Bon, c'est le grand péché hein, que nous avons dans nos pays d'Afrique, et c'est pas pour rien. Vous voyez, quand on organise ce genre de forum, vous verrez que dans l'assistance là-bas ou dans les animateurs, il y a toujours des expatriés, donc des Européens ou des Américains. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils viennent toujours donner quelques leçons qu'on ne maîtrise pas de façon générale. Mais pourquoi? Parce que on a parlé ici d'un gouvernement qui devait avoir des hommes qui ont une compétence. Les termes qu'on utilise, transparence, est-ce qu'on l'utilise dans un angle politique ou dans un angle de technicité? C'est des éléments qui manquent énormément dans nos pays, avec le gouvernement au sud du Sahara, dans la plupart des cas. Alors, ça devient des mots un peu vagues. Il faut une bonne répartition. Cette répartition-là, c'est sur base... Je rappelle un peu rapidement, lorsqu'on a parlé des richesses sur la frontière entre le Rwanda et la RDC, faire une bonne gestion pour que les deux populations se retrouvent. Mais est-ce que dans notre pays, ça a été le cas? C'est toujours difficile. Bon, pourquoi c'est difficile? Mais parce que, en fait, les mesures que l'on prend ici, de façon générale, elles ne sont pas très pensées. Elles ont plus une connotation politique. Et pour la plupart des cas, c'est des recettes qu'on peut générer où l'application, en fait, de ces mesures, c'est plus pour satisfaire ces bailleurs de fonds qui viennent pour soutenir notre économie. C'est-à-dire que vous verrez, par exemple, lorsque Mozito fait son bilan, il dit que non, il y a eu satisfaction. Pourquoi? Parce qu'on a atteint le point d'achèvement, parce qu'il y a eu une bonne partie de la dette qui a été effacée. Mais dans l'entretemps, la population elle-même ne subit aucun effet de toutes ces mesures, entre guillemets, bien faites sur la gestion des ressources naturelles de nos pays, donc les richesses qu'il y a dans nos pays. Donc le plus grand problème reste des mots qu'on utilise, plus dans un angle politique que dans un angle purement des techniques, pour que cela ait un impact réel sur la population. La population est toujours en dehors, elle n'est même pas au centre de toutes ces mesures, tous ces forums qui se tiennent et toutes les recommandations qu'on peut bien faire. En tout cas, il n'y a rien de la population là-dedans. C'est pour cela qu'on est dans cette gestion quelque peu calamiteuse de nos gouvernements.
Joachim Diana, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Les mesures qui sont prises ne sont pas bien pensées selon Innocent Kaboukala, et donc il faut repenser ces mesures pour que la transparence soit démise dans la gestion de ces ressources naturelles.
Lorsque des mesures sont édictées de l'extérieur pour des intérêts ambigus, comment voulez-vous qu'elles soient appliquées normalement? Je me pose souvent la question, pourquoi cet intérêt pour que les entreprises d'extraction du Sud-Sahara sont plus intéressées que ceux du Nord-Sahara, là où il y a aujourd'hui, par exemple, le pétrole qui dirige l'économie du monde, pratiquement. Pourquoi on ne cherche pas comment l'Iran gère son pétrole? Pourquoi? Pourquoi on doit seulement le chercher en Afrique? En fait, on vient le chercher dans les économies dominées et qu'on voudrait continuer à dominer dans un cadre purement néocolonialiste. Comment voulez-vous que moi, là, tel que je suis là, vous me mettez ministre, vous me dites appliquer ces mesures-là? Donc, je ne comprends pas la véritable portée et vous allez me demander de bien les appliquer.
Et donc, vous pensez que dans notre pays, tout se passe dans ce secteur-là, tout naturellement, il n'y a pas de problème et donc on n'a pas besoin des propositions et qui proviennent de l'extérieur pour mieux faire.
Par des propositions qui viennent de l'extérieur pour contrôler. Vous savez, j'avais assisté une fois, on nous invite au bureau du ministre de TPI, TPIR, Travaux publics et
infrastructures.
Pourquoi? Oh, non, voilà, et la Grande-Bretagne vient pour participer aussi aux cinq chantiers. Mais lorsqu'il prendra, c'est pourquoi? C'est pour surveiller les travaux que font les Chinois, pour voir si ces travaux-là respectent l'environnement. Monsieur, est-ce que c'est acceptable, ça? Et donc, est-ce que c'est acceptable dans ce pays que nous avons besoin d'argent pour réaliser nos travaux? Vous n'avez rien à nous apporter, ou peu, et vous estimez que vous devez être là pour surveiller celui qui nous apporte un peu plus, qui nous aide à aller jusqu'à presque à le frustrer.
Et donc vous pensez que le problème fondamental, c'est l'implication des partenaires extérieurs?
C'est du néocolonialisme, cette histoire-là. Je ne dis pas que nos entreprises extraction minière non minérée sont bien gérées, mais ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Pendant près d'un siècle, la Belgique en a fait que puiser. Il n'y a jamais une initiative pour voir qu'est-ce qu'on en a fait. Jamais du tout. Mais lorsqu'ils viennent, ils nous ont imposé la privatisation à tel point qu'aujourd'hui, la RDC...
Alors, vous proposez quoi?
Ce que je propose, c'est que ceux qui veulent aider le Congo, qu'ils l'aident en lui prêtant de l'argent.
Mais plusieurs fois l'argent est arrivé, mais la gestion a toujours été opaque.
C'est faux. Lorsque, par exemple, j'entends le confrère dire il y a eu point d'achèvement, il y a eu annulation de la dette, on n'a rien vu. Non, monsieur, vous savez que cette dette-là, c'est sur base de quoi? C'est des interventions. C'est une dette de 3 milliards qui est devenue 14 milliards et ainsi de suite. Et lorsqu'on annule la dette, cela ne veut pas dire qu'il y a de l'argent de plus, mais il y a une dépense de moins. Tout simplement. Mais comment nous pouvons être naïfs jusqu'à ce qu'on puisse qu'on a annulé la dette et cette dette, cet argent venu? Mais c'est toujours dans les mêmes recettes de la DGI, de tout ça. Mais il y a une dépense de moins, mais il n'y a pas l'argent de plus. Donc on ne devrait pas s'attendre à des miracles si on est de bonne foi.
Dona Moussema, je rappelle que vous êtes directeur de la radio communautaire Iriba FM, émettant depuis Bukavu au sud Kivu, une des provinces concernées par l'exploitation des ressources naturelles. Pouvez-vous mesurer l'impact de toutes ces mesures qui ont été prises jusque-là? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que les groupes armés continuent toujours à s'alimenter grâce à ces ressources naturelles?
Bon, je suis content que vous m'ayez posé la question. Donc, je dois rappeler que, d'abord, la conférence avait pour but de dresser un bilan des analyses et des réflexions sur la gestion macroéconomique des recettes tirées des ressources naturelles. Alors, la question que l'on se pose ici, est-ce que c'est pas encore une conférence de trop? Est-ce qu'on sait avoir les dividendes ou les retombées de cette conférence sur le social ou les vécus du peuple congolais, et notamment le peuple sud qui vous tient? Vous l'avez reconnu, nous sommes ici à l'est du pays. On sait qu'il y a beaucoup de carrés miniers, il y a beaucoup de zones minières, mais ce sont ces zones minières qui sont justement à la base de tout le malheur qui frappe le peuple sud qui vous tient ici. Vous allez vous rendre compte que tous les groupes armés, tous ces bandits qui sont morts à désolation, ils aiment toujours occuper les carrés miniers. Et même les grandes entreprises minières ou les multinationales, comme on les appelle, qui exploitent les minerais, ils exploitent, mais bon, le peuple ne se retrouve pas du tout. Alors, on se demande si c'est pas une conférence de trop. Est-ce qu'il y a moyen de comprendre les retombées réelles, concrètes, dans la vie du peuple? C'est difficile. Le ministre, nous l'avons suivi, il a reconnu dans son discours que le paradoxe était flagrant. Il reconnaît même que ces pays importantes ressources minières comme la République démocratique du Congo affiche un contraste entre cette abondance et même la situation d'extrême pauvreté qui frappe les populations. Il reconnaît aussi que ces ressources suscitent souvent des convoitises et pour beaucoup de cas, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, c'est à l'origine des conflits où il y a beaucoup de groupes armés et bon, voilà, autant de choses. Donc, je pense que les recommandations, on en a besoin, c'est vrai, mais il faut plus les matérialiser, il faut qu'elle soit pragmatique et concrète pour des bonnes
décisions. Donald Sema, vous avez dit que ce n'était pas le premier forum. Il y a eu beaucoup de forums avant celui qui se clôturait hier ici à Kinshasa. Et à l'issue de ces forums, il y a eu des résolutions qui ont été prises, des recommandations. Et parmi ces recommandations, on a parlé de la certification régionale. Il y a même le gouvernement congolais qui a pris une série de mesures pour essayer d'assainir ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes dans cette région qui est concernée, vous pouvez nous faire les bilans de toutes ces mesures qui ont été prises?
Je sais que bon, les mesures sont là, mais nous avons plus besoin de l'application de ces mesures pour que on puisse vivre un changement réel par rapport au vécu quotidien du peuple. Les mesures sont là, c'est pas la première conférence comme je l'ai dit. Il y a eu même beaucoup de conférences interrégionales qui se sont tenues ici. Il y a même beaucoup d'ateliers ici, mais en réalité, on remarque que le peuple qui sont autour des carrés miniers, par exemple, vivent dans la pauvreté. On remarque aujourd'hui que le peuple congolais qui a, par exemple, je ne sais pas, des réserves forestière plus importante après l'Amazonie. C'est un peuple qui souffre, qui ne bénéficie pas de toutes ces richesses. Donc, il y a, comme je le disais tantôt, un paradoxe flagrant entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et à ce niveau, on a besoin plus de ce qui est fait.
Et donc, si je vous ai bien compris, rien n'a changé en dépit de toutes ces mesures, la loi Obama, la certification régionale, les mesures prises par le gouvernement congolais, rien n'a changé.
En tout cas, je ne serai pas le seul à le dire, mais concrètement sur le terrain, en tout cas, rien n'a changé. Peut-être avec le temps, comme il ne faut pas être pessimiste, bon, il y aura des changements ou des apports positifs, mais jusque là, on ne sent pas un changement par rapport à toutes les mesures qui ont été jadis prises et d'autres même à venir, on ne sent pas. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait encore une volonté manifeste du gouvernement et qu'il y ait respect de tous les concepts dont on a parlé, la bonne gouvernance. On a parlé de la transparence, l'équité. Il faudrait que ces concepts soient coulés en des termes clairs pour qu'on puisse sentir le changement.
Innocent Kabukala, parmi les solutions qui sont proposées par certains experts, l'on parle de l'exploitation industrielle. Donc il faut industrialiser l'exploitation dans notre pays. Quelle est votre analyse par rapport à cette solution?
La solution, je crois qu'elle est bonne comme telle. Mais le plus grand problème, c'est toujours cette inquiétude qui reste. Parce que je crois que, comme c'est un forum, un nouveau forum, il fallait quand même trouver aussi un élément, un terme de proposition par rapport à ceux qui étaient à ce forum-là. Déjà précédemment, il y en a eu. Par exemple, lorsqu'on parle de tenir compte de l'environnement dans un certain milieu où, prenez le cas de Think of Way Mining. Je crois que beaucoup de gens sont un peu satisfaits du fait que cette entreprise, depuis qu'elle est implantée dans le Katanga, il y a quand même un petit progrès. Certaines écoles qui ont été construites et puis la population qui se retrouve dans l'emploi. Donc, c'est des choses comme cela. Hein, qu'il nous faudra davantage. Alors, les industries, par exemple, au niveau des forêts, cela, si on industrialise, c'est qu'on pourra décourager en même temps, par exemple, la coupe sauvage du bois, ce qui permettrait effectivement d'améliorer la vie de la population qui vit justement de cette coupe sauvage du bois, et puis, bien entendu aussi, le pays comme la RDC qui a une regorge formidable de ce bois qui contribue efficacement à l'équilibre de l'écosystème au niveau international. Donc, c'est des mesures comme cela que nous voulons, mais le plus grand problème, c'est l'application de ces mesures au niveau des gouvernants. Pour la plupart des cas, les gouvernants ne sont pas toujours disponibles et ils ne contrôlent même pas. Parce que quand on octroie, par exemple, des licences, des permis d'exploitation à ces entreprises, on ne suit pas sur terrain si, dans l'entretemps, les mesures qui ont été préconisées ont été prises en compte. On se contente plutôt d'avoir peut-être les présents ou les commissions que l'on verse. Et puis, bon, le reste, on ne s'en occupe pas. Et c'est ça que nous condamnons. Alors, pourquoi la présence de ces autres-là qui semblent frustrés, comme disait mon confrère ici. Mais c'est parce que justement, le peu qui reste là, qu'on donne quand même. Mais on ne fait même pas montre de cette bonne gestion, tout en condamnant, bien sûr, ce néocolonialisme. Mais le peu qui arrive là, nos gouvernants, elles ne savent pas le gérer pour que la population attire profit.
Joaquim Diana, donc l'implication des partenaires extérieurs est consécutive à cette mégestion des gouvernants.
Non, je ne suis pas vraiment dans cette logique-là, surtout de croire que nous recevons des dons. Mais ce sont des richesses de la RDC. Je ne suis pas non plus dans la logique d'industrialiser l'extraction. Non, j'aurais pris de bon côté ce forum, si le forum était venu, comment transformer sur place ce qu'on produit au Congo. Il faut que l'on sorte de là pour la transformation.
Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Matundu était à la technique, Alain Irung à la réalisation, sous la supervision de Ben Kabamba, devant ses micros, Guy Maté, merci, et bonne suite des programmes sur Radio Capi.